La première,
13h-14h,
l'agence tourisme,
Walid et Marianne Périlleux.
RTBF, la première, ravie de vous accueillir en ce samedi. Bienvenue à toutes et tous. Merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode de l'agence tourisme qui met le cap chaque semaine sur ces destinations. Et quelles destinations ? Destinations à découvrir avec les yeux, avec le cœur, avec tous les sens, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir tous avec nous ? J'ai envie de dire oui. Et on ne découvre pas ça seul. Comme chaque semaine est avec moi, c'est Marianne Périlleux. Bonjour Marianne.
Bonjour Walid, bonjour à tous.
Alors cette semaine, on va mettre le cap sur la province de Luxembourg, c'est bien ça ?
Mais oui, pour s'arrêter au cœur de la Famenne, Marchand-Famenne. Attractions, musées, patrimoine naturel, architectural, produits du terroir, artisanat, loisirs, tout ça ne manque pas dans cette petite ville, jadis fortifiée, qui s'est remarquablement transformée au fil du temps. Marche est aujourd'hui reprise dans les 23 villes de charme promotionnées par Visite Wallonia. C'est aussi l'une des villes wallonnes qui bénéficie du label Eden, la faisant figurer parmi les destinations européennes d'excellence.
Et oui, et parmi les très beaux bâtiments de cette petite ville au riche passé, on notera la vieille essence qui abrite aujourd'hui le Cordaneum, un lieu d'exposition dédié aux œuvres du luthier Gauthier Loupe. Un lieu qui, par ses lieux d'exposition, s'adresse à tous et toutes, évidemment.
Oui, parce qu'accompagner tous les publics dans la découverte de Marche, c'est l'un des objectifs de la commune. Une attention particulière est portée aux personnes porteuses de handicap. Je me suis donc intéressée à la balade Pas à Pas, qui, par le biais d'une application, permet à ces personnes de découvrir le cœur de la ville. Une balade que j'ai faite en compagnie de Corinne Kettels, chef de projet du plan de cohésion sociale à Marche.
Voilà, un reportage à découvrir dans la seconde partie de cette émission. Il sera aussi question d'initiation, initiation à la survie.
Oui.
Et à la survie. Et attention, je m'exerce. Et au bushcraft.
Yes.
Voilà, deux pratiques qui permettent donc de vivre en milieu sauvage en utilisant les ressources de la nature et quelques compétences de base. On en parlera avec Alain Tillemant, fondateur d'Esprit Aventure à Marche-en-Famenne et l'aventure. C'est l'aventure, comme disait le film. Et l'aventure, c'est ce qu'on aime ici dans l'agence tourisme. Alors, on ouvre ses portes maintenant. Bienvenue à toutes et tous. C'est parti, direction Marche-en-Famenne.
Imaginez une destination où tout est tout près de tout. Visite Wallonia, tout pour s'évader. L'agence tourisme sur la première.
Marche-en-Famenne, c'est donc notre destination du jour. Et pour en parler jusqu'à 14h, on a d'un côté Heidi Lapagne de l'office du tourisme de Marche-en-Famenne qui est avec nous. Bonjour Heidi.
Bonjour Palit.
Vous allez bien ?
Bonjour. Bonjour Marianne. Je vais très bien, merci beaucoup.
Très bien, pas stressé.
Pas du tout.
Ouais, vous êtes bien. On se détend parce qu'elle est arrivée en me disant « ça va être un peu... » On est comme à la maison. Vous êtes chez vous.
Okay,
Marche-en-Famenne qui vous écoute.
Ça marche.
Voilà. Tiens, si on devait pitcher Marche-en-Famenne en quelques mots, vous diriez quoi d'emblée, vous, Heidi ?
Mais en fait, les gens qui découvrent Marche pour la première fois s'attendent à une ville tranquille. Et en fait, on tombe sur une ville qui est vivante, qui est riche artistiquement et qui est profondément transformée, en fait.
Il y a plein de choses à voir, en tout cas, du côté de Marche-en-Famenne. Vous êtes aussi venu avec un produit local. Il est sous mes yeux et sous mon nez. Et je peux vous dire que ça fleure bon. C'est un gâteau, une spécialité typiquement marchoise, sans doute. Mais encore, qu'est-ce que c'est ?
En fait, c'est un Wasté. Donc, c'est une marque déposée qu'on trouve uniquement à la boulangerie de lait.
Mm-hmm.
Et donc, c'est un gâteau en forme de couronne. Donc, la base, c'est comme un cramique. Donc, il y a des raisins, un petit peu plus de sucre perlé.
Mmh.
Et on mange ça principalement aux fêtes. On en trouve toute l'année, mais souvent, on le mange principalement aux fêtes.
Je vous promets, ça sent super bon.
Et moi, c'est très joli.
Ouais. Et moi, ce que j'adore, c'est l'accompagner avec du beurre et du jambon. Donc, mélanger le sucré et salé. Et ça, c'est super délicieux.
Avec un petit peu de beurre et un petit café le matin aussi, ça passe tout seul. Ah, c'est délicieux.
Alors, à vos côtés, Heidi, il y a Sophie. Sophie Calonne, coordinatrice de la Vieille Sens à Marche-en-Famenne. Bonjour à vous, Sophie.
Bonjour.
Alors, la Vieille Sens est un lieu historique de la ville qui abrite, on l'a dit, le Cordaneum et ses nombreux violons. Quelle était la fonction initiale, en fait, de ce très beau bâtiment ? C'est un vieux bâtiment.
Un très vieux bâtiment, oui. Donc, en fait, Sens ou Sens, comme on dit en wallon, ça veut dire ferme. C'est une ancienne métairie. Donc, elle est toujours actuellement de forme carrée. Elle a été érigée vers 1450.
Ah oui, ça ne date pas d'hier.
Non, ça ne date pas d'hier. À cette époque, c'était la propriété de l'abbaye de Saint-Hubert.
Ouais.
Et donc, au XVIIe siècle, elle avait sa forme carrée, donc avec un logis seigneurial, un second logis, des étables, deux granges. Il y a beaucoup de propriétaires qui sont succédés jusqu'au XXe siècle.
Oula, c'est la ville qui a racheté, c'est ça ?
La ville a racheté après un incident majeur qui a touché le village de Marlois.
Donc, Marlois, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit. Ouais.
C'est un petit village donc, juste à côté de Marchand-Famène.
Ouais.
Et donc ce bombardement, donc, c'était le 21 mai 1944. Le bombardement a fait exploser un train de munitions allemand. Et le souffle était tellement puissant qu'il y a toute une partie du village qui a été détruite.
Oui.
Il y a eu une quarantaine de morts et donc la vieillissance a vraiment été fortement endommagée à cette époque. Donc suite à ça, oui, la ville a pu acquérir l'ensemble de bâtiments et les rénover dans les années 90 et 2000. Il y a eu deux phases de rénovation. Et donc aujourd'hui, on peut encore trouver dans ces bâtiments plusieurs ASBL, une grande salle des fêtes dans laquelle on organise régulièrement des réceptions de mariage, des soirées, des soupers.
Ouais.
Et donc on a aussi le centre de la lutherie, le Cordaneum.
On en parlera bien sûr.
Vous connaissez toutes les deux, j'imagine ?
Oui, bien sûr.
Voilà, on va commencer avec vous, tiens, Heidi. L'exploration de Marchand-Famène, Marine l'a signalé en début d'émission, c'est une ville médiévale qui se présentait comment ? Avec un château, des remparts, des corporations ? Racontez-nous un peu comment c'était.
Oui, exactement. En fait, à l'origine, Marche était un petit hameau qui dépendait de l'abbaye de Stavelot. Ensuite, elle s'est développée au Moyen-Âge parce qu'elle se situait à la croisée des chemins entre le territoire de Liège et le territoire de Namur. Donc on est vraiment, même si on est en province du Luxembourg, ces trois provinces sont très proches l'une de l'autre. Et elle devient très vite une ville marchande entourée de remparts à l'époque moyenâgeuse. Et puis, sous Louis XIV, pour ne citer que lui, les remparts sont démantelés. Mais ce qui fait la particularité de Marche, c'est qu'elle a su garder
son côté historique,
tout en se tournant vers l'avenir. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, en effet, à l'époque moyenâgeuse, c'était vraiment une ville entourée de remparts. Donc, il y avait 1,5 km de remparts. Il y avait une bonne vingtaine de tours. Il y avait une porte haute et une porte basse qu'on retrouve encore actuellement dans la ville.
Avec des corporations, j'imagine.
Exactement.
Au niveau des rues, chacune avec des rues. Et ça laissait des traces. Je crois qu'il y a des rues qui portent le nom de ces corporations.
Tout à fait.
Comme la rue des Savoyards.
La rue des Savoyards, en fait. Pourquoi les Savoyards ? Parce que Marche a été victime de beaucoup d'incendies, comme beaucoup de villes à l'époque, parce que c'était construit en bois, en torchis. Donc c'était un matériau qui était très inflammable. Et une rue des Savoyards parce que les ramoneurs qui venaient entretenir les cheminées, exactement, venaient de la région de Savoie. Exactement. Et on a, encore aussi une petite rue des tanneurs. On a aussi la rue des dentelières et la rue des brasseurs. Voilà. Donc, quatre rues à Marche qui portent toujours le nom des anciennes corporations qui ont été exercées à cette époque moyenâgeuse.
Une trace médiévale en tout cas qui reste. Pour quelle raison la ville s'est développée ? J'imagine qu'il y a plein de choses. C'est une ville de passage déjà pour commencer.
C'était une ville de passage, oui. C'est vrai qu'elle est devenue une ville, un centre commercial très important à une époque. Et dans les années 70, en fait, la volonté de la ville, c'était vraiment de rénover cette ville. Elle a été complètement reliftée. Enfin, le défi était assez important puisque l'idée, c'était de redynamiser le centre-ville, de donner un cadre de vie accueillant pour les habitants, mais aussi pour les nombreux touristes que nous accueillons au centre-ville tout au long de l'année.
Et l'envie aussi de donner envie aux gens de rester.
Et exactement, et de mélanger, de conserver ce patrimoine ancien et ce nouveau patrimoine. Donc maintenant, quand on se promène à Marche, on se promène dans un centre où on sent vraiment cet équilibre esthétique entre le passé historique et la rénovation urbaine.
Le présent et forcément,
exactement,
de facto, le futur. Et au fil du temps, il y a pas mal de bâtiments remarquables. Hein. On a évoqué la vieillissance tout à l'heure. Il y en a d'autres. Hein. La maison Jadot.
La maison Jadot, exactement. Donc ça, c'est une maison qui était une demeure bourgeoise. Il y a une aile qui date du XVIIe siècle et l'autre date du XVIIIe siècle. Pardon. Et actuellement, elle abrite le Famène and Art Museum.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a une partie qui est dédiée à l'artiste belge Rémy van den Abel. Et l'autre partie, on y trouve plus des objets anciens comme des bijoux, de la poterie, qu'on a retrouvés dans cette bande géographique qui s'appelle la Famène. Et c'est des objets qui datent de la préhistoire jusqu'à nos jours.
Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de bâtiments, l'ancien couvent des Carmes.
Exactement, c'est nombreux. Et aussi la vieille Sainte où ma collègue Sophie travaille.
Le château Jadot, l'église Saint-Étienne de Doha, magnifique.
L'église
romane avec ses vitraux de Follon.
Jean-Michel Follon, exactement.
Magnifique, il faut absolument aller voir un patrimoine majeur de Wallonie. La ville change d'ailleurs aussi de visage dès les années 70, vous l'avez dit, hein, avec un mouvement qui s'est accéléré ces dernières années. La physionomie de la ville aujourd'hui, c'est quoi exactement? C'est passé, présent et futur, si on a résumé.
Exactement. C'est une une grande ville.
Une
grande petite ville piétonne. Voilà, ouais. On se promène dans le centre-ville avec ses petites... elle a conservé ses petites ruelles, ses petites
pleines
places
de charme,
arborées. Ouais. Et se mélange toujours entre anciennes demeures. Et on y a mélangé, par exemple, du mobilier urbain et de l'éclairage high-tech. Mais voilà, on a toujours conservé ce mélange.
On vit avec son époque et l'époque.
Voilà, mais tourné vers l'avenir. Mmh. Exactement. Voilà.
Et ce subtil mélange d'anciens et de nouveau, cette rénovation importante menée dès les années 70, c'est tout ça. Cela qui a valu à la ville de bénéficier justement depuis 2011 du label Eden dont j'ai parlé, donc destination européenne d'excellence. C'est important, ouais, ça, pour la ville.
Exactement, oui, tout à fait. Et cette année-là, justement, la thématique, c'était la réhabilitation des sites.
Oui.
Donc, ça veut dire que certains bâtiments, certains complexes ont une occupation actuelle qui n'était pas la même que celle qu'elles avaient à l'époque moyenâgeuse ou au siècle passé, comme on vient de le citer, par exemple, notamment la tour de la Juniesse, par exemple, qui est un des derniers vestiges de l'époque moyenâgeuse qui reste à Marche et dans lequel il y a un escape game.
Ah ouais. Wow.
Voilà.
Moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, c'est un mélange d'anciens, de nouveaux.
Oui,
en gros, c'est ça. Il y a des valises d'enquête aussi pour découvrir la ville.
Ouais. Ouais, le jeu d'enquête du petit chiffleux, justement. Qui est
Le
petit chiffleux, oui. C'est un petit gamin qu'on trouve au pied du château Jadot.
D'accord.
Et qui a un petit aspect un petit peu espiègle, comme ça.
C'est ça.
Et il siffle, en fait.
Le petit chiffleux,
c'est le petit siffleur.
D'accord, ok. Alors, en tout cas, pas mal d'endroits où on peut, de manière ludique, découvrir la ville de Marche autrement, Marie.
Voilà, il y a aussi Escape in the City. Voilà, vous l'avez signalé. Il y a un espace aussi dédié, m'avez-vous confié, aux jeux de société dans la ville.
Le Boladé.
Le Boladé.
Il y a aussi un lieu à humains, les ateliers Gerny. Donc, ça, c'est plutôt un lieu qui est dédié à l'artisanat. Il y a aussi de très nombreuses balades à faire au départ de Marche, on y reviendra. Les paysages de la Famenne, faut-il le dire, sont absolument superbes. L'occasion de signaler que nous sommes bien sûr ici, Heidi, au cœur du géoparc Famenne Ardennes qui est labellisé par l'UNESCO. J'imagine que tous ces labels, tout ce travail d'actualisation, de modernisation, ça amène des touristes.
Bien évidemment, on reçoit plus ou moins entre 15 000 et 20 000 visiteurs par an, donc c'est pas négligeable, oui, c'est ça. Et la principale origine des visiteurs, c'est plutôt la Flandre, mais aussi des personnes étrangères comme l'Angleterre. On a parfois des Japonais, on a parfois des Américains. Donc il faut savoir être multilingue au bureau d'accueil, où parfois on communique avec les gestes.
Voilà, toutes les infos justement déjà pour les auditeurs que cela intéresse, on les renvoie donc vers votre site visitemarche.be, bien sûr sur le site de la Maison du Tourisme avec laquelle vous collaborez, c'est famenardennes.be, où on peut aussi se rendre directement à la Maison du Tourisme qui se trouve au cœur de la ville, puisque c'est là que se trouve, si je ne m'abuse, le point d'information pour les touristes.
Exactement, tout à fait. Sur la place de l'étang.
Place de l'étang. Je dirais en sifflant, tiens, justement, comme le petit chou-fleur. Après cette première découverte de la ville, c'est l'un de ces bâtiments où on va prendre place. Là, maintenant, c'est le Cordaneum.
L'agence Tourisme sur la première.
Et c'est avec vous, Sophie Calonne, que nous poursuivons donc cette découverte de Marche, cap sur Marlois, donc l'un des villages de la commune. C'est là que se niche le Cordaneum. Un mot tout d'abord sur le nom. C'est un mot inventé, le Cordaneum, ça vient d'où exactement ?
C'est un mot inventé.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait.
Pourquoi ? Comment ça ?
Parce que la spécialité, c'est les instruments à cordes.
Ah, c'est pour ça. Et donc on s'est dit, on va latiniser tout ça. Cordaneum, instruments à cordes.
Voilà.
Bâtiment ancien, on le rappelle, c'était une ancienne ferme qui a aujourd'hui complètement changé d'affectation, du coup.
Oui, complètement, oui.
Mais qu'est-ce qu'on y fait ?
Qu'est-ce qu'on y fait ? Donc, on peut visiter une exposition permanente. Mmh. Donc, en fait, au départ de cette exposition, il y avait une école qui a été créée par la collaboration du maître luthier Gauthier Loupe avec la ville de Marche-en-Famenne en 2010. Et en parallèle, il y a tout de suite une exposition qui s'est installée pour montrer les créations des étudiants. À l'heure actuelle, on peut encore voir une exposition permanente qui retrace un parcours didactique qui explique chaque étape de fabrication d'un violon, parce que c'est la spécialité, c'est le quatuor à cordes, c'est-à-dire la fabrication des violons alto et violoncelle.
Oh.
Donc vous pouvez découvrir chaque étape de fabrication depuis le choix du bois jusqu'à la pose du vernis final.
Et j'imagine qu'il y a des concerts aussi.
Il y a des concerts qui sont organisés également, en effet. Il y a des expositions temporaires. Et dans l'exposition permanente, on peut aussi voir toute une série d'instruments historiques hétéroclites qui ont été fabriqués en grosse partie par les étudiants aussi eux-mêmes.
Justement, hein, les instruments à cordes, et vous évoquiez son nom, un homme qui est à l'origine de ce que l'on trouve au Cordanéum. C'est un luthier, il s'appelle Gauthier Loupe. Racontez-nous, qui est-il ?
Qui est-il ? Donc, c'est un grand maître luthier reconnu internationalement. Il est retraité depuis un an maintenant, mais on peut encore l'apercevoir régulièrement dans le musée.
Et quand on est passionné.
Voilà. D'ailleurs, il est encore possible de réserver une visite guidée avec lui.
Oh, donc, c'est
pour rendre la visite encore plus complète.
Riche.
Oui. Et il présente une série d'instruments dans notre exposition qui sont en fait très différents des instruments classiques. Donc lui, il a une formation classique de base, donc de lutherie pour la fabrication des violons. Dans la formation classique, en fait, on apprend à réaliser toujours la même forme de violon. Donc quand vous voyez dans les concerts, etc.
Mais du coup, c'est quoi ? Ces créations sont particulières ?
Ces créations sont très particulières.
Donc,
il a vraiment choisi de s'éloigner du cadre classique et donc il a travaillé sur la forme et la sonorité. Donc il y a vraiment une alliance des techniques scientifiques et de l'esthétique. Et donc pour arriver à un résultat d'instruments qui sont vraiment uniques aussi bien par la forme que par la sonorité.
Et donc du coup, au Cordanéum, on l'a dit, vous l'avez évoqué, oui. On voit ces créations, créations de Gauthier Loupe, des copies d'instruments aussi.
Il y a des copies d'instruments anciens, donc comme je le disais, réalisées par les étudiants. Donc on peut trouver par exemple des sistres, un baryton, une harpe sculptée, une contrebasse, des mandolines.
Donc pas mal d'instruments en tout cas à cordes. Et vous l'avez évoqué aussi, une école de lutherie, une école qui est indépendante ou qui dépend d'une autre structure ?
Alors, auparavant, elle était vraiment partie intégrante de notre structure, mais depuis quelques années, elle a été reprise par l'IMEP, donc la Haute École de Namur. Oui.
Voilà, c'est une école de lutherie, effectivement, donc, qui dépend de l'IMEP, donc l'Institut de Musique et de Pédagogie de Namur. Elle est aujourd'hui donc dirigée, elle était dirigée par Gauthier Loupe, voilà. Oui. Elle est aujourd'hui aux mains de Ludovic Serafini, qui est luthier lui-même, et donc maintenant enseignant. Ludovic Serafini, qui est de nationalité française, qui s'est formé aux côtés de Gauthier Loupe avant de devenir donc son assistant et de reprendre maintenant...
C'était un de ses premiers étudiants.
Oui, vraiment, oui, extra, c'est une très belle histoire. Et de reprendre maintenant sa charge professorale depuis 2022, puisque Gauthier est parti à la...
Oui.
À la retraite.
Ah bah justement, vous savez quoi, Ludovic est avec nous par téléphone.
Mais oui, pour en savoir plus
sur
cette école.
Le cursus de lutherie. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Alors, bonjour.
Comment allez-vous ce samedi ?
Très bien, merci.
Écoutez, on va non pas aller chercher la corde sensible, mais parler justement de tout ce qui nous intéresse, vous intéresse. Dites-nous d'abord, cette école de lutherie à Marchand-Famenne, à qui s'adresse-t-elle et pendant combien de temps dure le cursus ?
Elle s'adresse à tout le monde, tout simplement dans le sens où il n'y a pas de limite d'âge. L'essentiel étant d'être passionné par la facture instrumentale. Alors, en ce qui nous concerne, ça va être dédié au violon alto et violoncelle, comme ça a déjà été dit par Sophie Calonne. Donc, faut être passionné, pas de limite d'âge, et savoir qu'il va falloir s'investir pendant 3 ans. 3 ans d'études, de formation intense, puisqu'on va avoir des temps d'atelier entre 600 et 900 heures par an, entre 20 et 30 heures par semaine à l'atelier, puisque cette formation est...
Certificative, j'imagine, parce que vous avez un diplôme à la fin d'études supérieures.
Tout à fait, c'est un bachelier en lutherie qui a été créé par l'IMEP et qui a pour but de faire les étudiants des professionnels et donc à leur fournir et à leur offrir la capacité d'intégrer des ateliers de façon à pouvoir poursuivre leur formation avec des spécialités qui seront soit la fabrication, soit la restauration. Donc, pour répondre à votre question, des passionnés qui vont s'investir pendant 3 ans dans la facture instrumentale pour ensuite poursuivre une vie professionnelle dans ce métier.
Combien d'élèves maximum ?
12 sur les
par année ou sur le cursus ?
Alors, sur le cursus, sur les 3 années.
D'accord.
C'est-à-dire que les 3 années cohabitent au sein du même atelier. On a donc espace...
Donc, c'est les inscriptions, si je comprends bien, c'est tous les 3 ans, alors, du coup, c'est ça ? Si on veut...
Alors, il y a des inscriptions tous les ans, puisque les rentrées ont été échelonnées.
D'accord.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a réellement 3 années qui cohabitent. Et puis, lorsque des jeunes sont jeunes ou moins jeunes, sont diplômés, ils libèrent une place pour des nouveaux entrants dans la formation.
Voilà. Vous donnez des cours pratiques surtout, c'est ça ? On est sur de la théorie, comment ça se passe ? L'objectif majeur du cursus, c'est quoi ?
l'essentiel du cursus est basé sur le temps d'atelier. Donc c'est de la pratique, puisque tout simplement c'est ce que demande le métier, bien entendu. On est des artisans du bois, mais à côté, autour de ça gravitent des cours dits périphériques qui sont également en lien avec le métier. L'histoire de la musique, de l'histoire des arts, de l'encyclopédie, de l'acoustique, bien entendu.
On va travailler son oreille.
On va travailler un petit peu tout. Ça, autant le cerveau que ses mains et effectivement ses oreilles, tout à fait.
Ludovic, il y a beaucoup de monde pour cette école. Les étudiants viennent parfois de très loin pour suivre ces cours.
Alors en effet, c'est ouvert à tous en termes d'âge et en termes de nationalité également. Donc en ce moment, il y a beaucoup de Belges, il y a des Français. On a eu l'année dernière encore une Chinoise. Ah, si on remonte un petit peu en arrière, on a eu des étudiants qui venaient du Mexique, de Colombie, du Canada, de Suisse, du Maroc. Voilà.
Vous l'avez déjà évoqué sur les admissions. Donc, il y aura une session d'admission cet été, m'avez-vous dit, au mois d'août, pour le cursus de l'année prochaine.
Absolument. Il y a des sessions d'admission qui permettent de rencontrer les candidats, qu'ils puissent se présenter et faire part de leur motivation pour l'entrée en formation. Et en effet, les sessions du mois d'août sont pour une entrée en formation au mois de septembre.
Oui, ils doivent présenter quelque chose. C'est un entretien, c'est quoi? C'est un examen, c'est quoi?
C'est tout ça en même temps, dans le sens où ils se présentent eux et ils doivent présenter une réalisation faite en bois, quel que soit le sujet, en lien ou pas avec la musique, mais alors qui nous permet évidemment, nous, de valider que les personnes ont un minimum d'aptitude au travail, mais ça permet aussi de valider à eux, de valider qu'ils aiment ce métier et le travail du bois. Parce que ça paraît génial comme métier, mais malgré tout, c'est quand même assez difficile parce que très exigeant en termes de qualité. Et c'est par la présentation de cette réalisation en bois qu'on valide la motivation de chacun à s'investir durant 3 ans.
Merci Ludovic d'avoir répondu à ces quelques questions. On renvoie les auditeurs sur le site de l'IMEP.be pour en savoir plus.
Merci à vous Ludovic. Et tiens, vous savez si les créations de Gauthier Loupe ont été acquises par des musiciens ou si elles se retrouvent dans certains orchestres?
Alors c'est déjà arrivé par le passé, mais comme je le disais, comme la démarche de Gauthier Loupe, c'est de s'éloigner vraiment de la forme classique de la lutherie, c'est parfois assez mal vu finalement de changer de forme de violon pour les musiciens professionnels.
Ah oui, donc on reste dans du classique et donc du coup...
En général, oui.
Ah bah voilà.
Et c'est d'ailleurs ce que Ludovic me disait aussi en préparant l'émission, il enseigne également l'instrument classique,
bien sûr,
à ses étudiants. Toutes les informations sur le Cordaneum sont disponibles sur le site cordaneum.be. Cordaneum, Sophie, je le signale, qui est labellisé Bienvenue Vélo.
Oui, en effet.
Donc, on peut visiter le musée avec son vélo, mais aussi en venant en train.
Oui, exactement. On se trouve à quelques minutes de la gare de Marlois. Donc.
Voilà. Bah, vous qui nous écoutez, vous restez avec nous. On va continuer à se plonger dans cette ville, cet univers. Avec Heidi et Sophie, vous restez avec nous. On va quitter Marlois pour retourner à Marche pour parler balade. Mais avant cela, on va se promener en musique pour vos oreilles. Ça fait toujours du bien. Voici un groupe qu'on aime beaucoup en Fédération Wallonie Bruxelles. C'est les amis de Puggy avec Mirror. En duo avec Maël, Puggy, c'était Mirror. Et nous, sans plus attendre, eh bien, on revient à l'agence Tourisme sur RTBF La Première. On parle à la rencontre de Corinne Kettel. Ce qui est-elle? Eh bien, reste avec nous pour la savoir.
L'agence Tourisme sur La Première.
Place au reportage de la semaine à présent avec vous, Marianne. Vous nous parlez cette semaine d'une courte balade spécialement conçue pour les personnes porteuses de handicap.
Oui, c'est une initiative du Conseil consultatif de la personne handicapée qui a souhaité répondre à un appel à projet de la région wallonne portant sur l'accessibilité des sites et des hébergements touristiques. Alors, le nom de cette balade, c'est Pas à Pas. L'idée étant, vous vous en doutez, de découvrir la ville à petits pas, mais avec un smartphone ou une tablette, donc une application. C'est un projet que j'ai tâché de mieux comprendre en rencontrant sur place Corinne Kettels, qui est chef de projet du plan de cohésion sociale à Marche.
Pas à Pas, c'est une application donc, que nous avons créée et qui permet aux personnes en situation de handicap de réaliser un circuit touristique en extérieur. Et le circuit va relier 17 points d'intérêt au centre-ville, des points d'intérêt artistiques comme des églises, du statuaire, etc. Et l'intérêt de cette application, c'est qu'en fonction du handicap de la personne, toutes les informations historiques, artistiques, mais aussi les consignes de sécurité et de direction, lui seront délivrées dans un langage adapté à elle, donc en facile à lire et à comprendre pour les personnes déficientes mentales, en vidéo sous-titrée et signée pour les personnes sourdes et malentendantes, et via de l'audiodescription pour les personnes malvoyantes et aveugles.
C'est beau. C'est beau, ça donne envie, en tout cas c'est formidable de voir que tous les handicaps sont concernés, Marianne.
Mais absolument, mais comment est-ce que cela fonctionne concrètement? La question n'est pas anodine évidemment. Pour le comprendre, eh bien, rien de tel que de faire la balade avec Corinne, c'est ce que j'ai fait. Et on a bien évidemment ouvert l'application.
Bienvenue sur le parcours pas à pas. Ce parcours vous emmène à la découverte du cœur de la cité de Marche-en-Famène, de son histoire et de son savant mélange d'anciens et modernes. Le point de départ de la balade se situe à côté des trois déesses appelées Élégance. Les trois déesses se trouvent place de l'Étang, près de la Maison du Tourisme, en direction du boulevard du Nord, à côté du grand poteau qui indique Maison du Tourisme. Vous y êtes ?
Voilà, la personne ne peut pas se tromper, puisqu'on lui indique le chemin à emprunter.
C'est ça. Donc, une fois que la personne est sur le point de départ, donc elle écoute les informations sur le premier point d'intérêt. Il y a une autre manière d'être certaine d'être au bon endroit, c'est que au pied de chaque point d'intérêt se trouve un petit macaron avec le logo du circuit, de l'application, le numéro du point d'intérêt et la direction qu'il faudra emprunter ensuite. Et en fait, c'est à chaque fois que la personne va s'approcher avec son téléphone ou sa tablette du point d'intérêt suivant, un système de petites balises Bluetooth va enclencher, en fait, va détecter la présence du téléphone, par exemple, et va donc enclencher la bande son pour la description de l'œuvre. Et puis après, ça va s'enclencher tout seul pour avoir la direction suivante, les points d'attention pour être que tout soit bien sécur, parce qu'on est en pleine ville. Et que donc il y a des voitures, il y a des travaux, il y a différentes choses auxquelles il faut faire attention, en tout cas qu'il faut signaler.
Tout à fait. Alors on marche un petit peu, on a quitté le point de départ de la balade, à proximité de la Maison du Tourisme. C'est vrai qu'il y a pas mal de voitures. On s'approche, je pense déjà, du point numéro 3.
Macaron 3, Gugus.
Gugus.
Nous sommes devant une statue de bronze foncé d'environ 1,30 m de hauteur, posté sur un socle de pierre rectangulaire. Nous surprenons Gugus, c'est son nom, debout, la main droite devant la bouche comme pour s'excuser et l'autre derrière le dos tenant une bouteille. Il est, comme à son habitude, vêtu à la façon des paysans ou ouvriers d'autrefois.
Voilà donc le genre d'information que, ici en l'occurrence, on a lancé l'audiodescription. Donc c'est principalement ça. Pour les personnes malvoyantes, aveugles.
Oui. C'est ça. C'est principalement donc pour ce public, mais ça peut aussi être pour le public valide, parce que l'avantage, je trouve, avec l'audiodescription, c'est que ça décrit tellement bien. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne voit pas en tant que valide et devant lesquelles on passe sans même les voir. Sans même les voir, exactement. Ouais. Au lancement de l'application, la personne sélectionne le handicap qui est le sien. Et donc, elle aura le langage donc adapté à sa situation. Voilà.
Vous avez déjà fait une estimation du succès de ce circuit ?
Non, pas encore. C'est un circuit qu'on essaye de soutenir et de promouvoir, évidemment, au mieux à travers les associations du secteur du handicap de Marche, de la région, de la province, à travers le label Access-I, à travers également la cellule tourisme de la région Wallonne, etc. Parce que c'est quelque chose qui mérite d'être connu, d'être fréquenté, évidemment, mais qui nécessite une bonne communication et un rappel sans cesse de son existence. Voilà.
Un projet très inclusif, ma foi. Tiens, Heidi, on a fait allusion, vous l'avez entendu, comme nous, à Gugus dans cet extrait. On parlait tout à l'heure du petit chuffleux. Il y a d'autres personnages comme ça, de ce genre, à Marche ?
Oui, il y en a quelques-unes. En fait, dans le centre de Marche, il y a plus ou moins une bonne trentaine d'œuvres d'art. Mmh. Et il y en a plus ou moins une dizaine dans les villages qui font partie de la commune. Et il y a notamment, par exemple, au pied du château Jadot, on peut trouver Joe le pingouin, qui est une grosse œuvre d'art qui fait plus ou moins 800 kilos. Mmh. Donc il a des pattes de canard, une carapace de tortue et un visage d'oiseau. Et il a été représenté par l'artiste Mark van Krinkelveld. Excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé son nom de famille. Et en fait, il a voulu rendre hommage au prix Nobel de chimie, Ilia Prigogine.
Ah oui, Ilia Prigogine, voilà. Bien sûr qu'on connaît bien ici au sein de RTB, puisqu'il y a une école Ilia Prigogine qui est juste...
Tout à fait.
Voilà, tout simplement.
Exact.
C'est vrai qu'il y a pas mal de choses dans le parcours. On l'a entendu, Marine, très inspirant.
Mais inspirant qu'il manque donc pas de mettre les personnages locaux à l'honneur, des artistes, des édifices intéressants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art en plein air à Marche, oui, c'est vraiment des caractéristiques de la ville. Mais voilà, revenons à cette balade pas à pas. Évidemment, le but, c'est que chacun la fasse à son propre rythme,
ouais.
Voilà,
oui,
à son propre rythme, pas à pas. Corinne, on a marché quelques centaines de mètres dans les rues de Marche. Je dis quelques centaines de mètres parce que c'est vrai que la balade n'est pas très très longue au total.
Non, 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 elle fait, je pense que c'est un peu moins de 2 km. Voilà. Donc c'est tout à fait... c'est pas très grand et en s'arrêtant... L'application et l'autonomie visée par l'application, elle vient aussi, enfin, elle est apportée par le fait que les personnes peuvent arrêter, passer des points d'intérêt qui ne les intéresseraient pas, aller plus vite, moins vite, etc. Donc, mais on compte en le faisant à son aise, 1h30 de balade.
D'où le titre, pas à pas.
Pas à pas, parce que c'est au pas à pas de chacun.
Ouais.
Voilà, avec ses centres d'intérêt et son rythme en tout cas.
Oui. Nous venons de passer précisément devant quelques points d'intérêt. J'ai vu un 11, j'ai vu un 12, là c'est 13. C'est un drôle de personnage d'ailleurs.
C'est ça, donc on est passé devant un petit personnage emblématique, le petit chiffleux,
oui,
donc une sorte de petite mascotte marchoise. Ensuite le drôle, l'espèce de drôle d'oiseau mi-tortue, mi-oiseau à long bec, c'est donc Jo le pingouin du volcan qui en fait nous amène alors vers le musée
qui est juste devant nous.
Voilà. Le Famen Ardennes Museum, avec qui la ville développe encore pour le moment un projet d'accessibilité à l'intérieur du musée à ce moment, enfin maintenant, pour les personnes aveugles et déficientes visuelles également. Donc c'est vraiment le circuit pas à pas s'inscrit dans une démarche globale de la ville qui souhaite vraiment travailler sur l'accessibilité au sens large, l'accessibilité de tous à un maximum de choses, en fait.
Qui nous donne en tout cas l'occasion, Heidi, d'évoquer les nombreuses balades à y faire. Et on peut faire le point d'ailleurs avec vous. Il y a pas mal d'endroits qu'on peut découvrir en se promenant.
Exactement. C'est vrai qu'on peut découvrir la ville de manière ludique, mais en fait, si on s'écarte un petit peu du centre-ville et de ces petites ruelles avec son riche patrimoine, on fait quelques centaines de mètres et on est vite plongé dans la nature, comme par exemple un des poumons verts de la ville qui est le Fond des Vaux, où là on trouve 3 balades balisées. Et ce poumon vert de la ville qui s'appelle le Fond des Vaux, c'est une petite vallée encaissée, un petit peu sauvage, qui contraste avec la plaine de la Famenne dans laquelle se trouve le centre-ville. On est aussi au cœur du géoparc Famen Ardennes qui est repris à l'UNESCO.
Donc c'est
de nouveau un label supplémentaire dont la ville possède et on est vraiment fiers d'avoir ces différents labels.
En tout cas, il y a pas mal de balades balisées
partant du centre-ville.
Hein.
Oui, c'est ça. Donc en fait, il y en a 3 déjà au sein du Fond des Vaux. Et alors, on a une carte de promenade qui reprend 18 promenades pédestres balisées, ça fait plus ou moins 140 km de réseau promenade qui vont de 3,6 km à 17 km, c'est la plus longue. Et la dernière qu'on a balisée, justement, elle se situe, c'est la balade de la Succis, parce qu'elle porte toutes des noms de fleurs. Voilà,
c'est mignon.
On aurait pu mettre des noms d'animaux, enfin nous on a décidé de mettre des noms de fleurs. Et la Succis, c'est aussi une petite fleur. Et donc je disais, cette dernière balade qu'on a balisée, ça fait une année. Elle se trouve au pied de la tour de la Famenne. Pour ceux qui connaissent, quand on descend vers le Luxembourg, quand on arrive à la tour de la Famenne, on se dit ça y est, on fait une petite pause. Ah bah, cette balade, elle se situe là, entre la Nationale 4 et le Wex. Elle fait 3,6 km et on est presque exclusivement dans les bois et on longe un petit ruisseau qui s'appelle le Riden, qui fait la frontière avec le territoire qui se situe juste à côté, qui est la commune de Sommeleuse. Et là, on a l'impression qu'on est dans la mangrove. C'est vraiment impressionnant. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et alors, alors on a peut-être, je dis bien peut-être, la chance de percevoir des castors, parce qu'ils font de nombreux parages. Et voilà. Mais c'est vraiment un super chouette endroit à découvrir. Et je vous dis, c'est vraiment très dépaysant par rapport à.
Oui, parce qu'on peut, on peut se promener et il y a aussi des parcours VTT. Hein, et
oui, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Oui, alors au verso de la carte, il y a trois parcours VTT qui vont de 11 à 30 km. Et là aussi, ça permet de découvrir la ville d'une façon différente, un peu plus, plus sportive.
Ouais, voilà, tout simplement, exactement, pour les amateurs de sensations.
Et cette carte, elle est en vente, soit à la Maison du Tourisme ou alors à l'Office du Tourisme. Ou alors, on peut télécharger les traces GPX via notre site internet.
Mais c'est ce que j'allais dire, voilà, mais c'est formidable. Vous l'avez fait à ma place, c'est génial. Et on renvoie encore une fois les auditeurs sur votre site visitemarche.be, sur le site de la Maison du Tourisme Famène Ardennes. Et je rappelle quand même pour Pas à Pas, donc cette balade qui s'adresse aux personnes porteuses de handicap, qu'on peut aussi à la Maison du Tourisme louer, enfin trouver des tablettes.
Oui, c'est
voilà,
ça,
exactement, gratuitement d'ailleurs. Ouais,
c'est ça.
Des tablettes que l'on peut mettre à son cou en fonction du handicap précisément. Donc c'est important de le signaler. Et l'application évidemment se télécharge gratuitement.
Ah bah voilà, de belles choses en tout cas à découvrir. On va continuer de se balader à Marche avec un amoureux de la région, c'est Alain Tillemant. On va parler débrouillardise, bivouac et aventure en pleine nature. Et c'est tout de suite.
La première, l'agence tourisme, Marianne Périlleux et Walid.
Jusqu'à 14h, TBF La Première, l'agence tourisme. Si vous avez l'esprit aventurier, c'est un concept qui s'adresse à toutes et tous, hein, du côté de Marche en Famène, pourquoi pas. Et pour en savoir un peu plus sur ce concept qui vous plonge en pleine nature, c'est son fondateur que nous avons en ligne, Alain Tillemant. Bonjour à vous.
Oui, bonjour à vous aussi.
On a de toute façon, quoi qu'il arrive, un sac à dos, un couteau ou n'importe quoi d'autre. En tout cas, vous allez nous expliquer comment on fait. Vous avez créé Esprit Aventure il y a une bonne quinzaine d'années. Quel est le concept justement d'Esprit Aventure ?
Ah ben justement, Esprit Aventure, c'est justement travailler dans un certain esprit. Hein, donc surtout comprendre la nature et vivre dans la nature. Hein, donc en fait, je propose différentes activités. Aventure nature, hein, qui va surtout à la carte. Hein. Donc moi, je travaille à la carte, vraiment ce que les gens veulent. Donc ça va de la balade familiale, hein, où j'explique la faune, la flore de la région, en passant par la survie. Là, c'est vraiment, vraiment...
Ah oui, donc on apprend vraiment à se débrouiller dans la nature avec un minimum de matériel.
Oui, c'est ça. Donc je fais aussi de l'orientation, hein, parce que ça va dire la carte, des randonnées aventures, du franchissement d'obstacles en milieu naturel, et également du bushcraft, qui est un peu différent.
Alors c'est quoi le bushcraft ?
En fait, le bushcraft, la différence majeure, c'est le contexte et l'intention. Le bushcraft, c'est une pratique en fait volontaire et planifiée pour vivre en harmonie dans la nature.
D'accord.
Développer certaines compétences comme l'artisanat, l'autonomie. Mais ça, ça se fait par plaisir, donc c'est volontaire. Tandis que la survie, c'est une réaction d'urgence face à un danger imminent où l'objectif est vraiment de survivre le plus longtemps possible et la plupart du temps, on n'a pas de matériel ou très peu de matériel. Donc c'est vraiment la grande différence, c'est volontaire.
Ouais.
Et de l'autre côté, c'est involontaire.
C'est à faire avec ce qu'il y a. C'est votre passé de militaire qui vous a soufflé cette idée ou cette passion ?
Oui, entre autres, depuis beaucoup de voyages, parce que j'adore voyager un peu partout dans le monde.
Bah, vous êtes un foot trekking. On m'a dit que vous étiez un foot trekking.
Oui, en autonomie. Hein. J'aime partir, prendre le sac et partir. Et là, j'apprends. Et j'apprends aussi de beaucoup des gens dans des pays dans lesquels je travaille.
Des rencontres que vous faites forcément. Et ce sont ces échanges qui rendent encore plus riche cette formation. Qu'est-ce que vous proposez justement dans ce sens des journées d'initiation, des stages de survie sur votre site, vous parlez effectivement de bushcraft. On en a parlé là, il y a quelques secondes. Ça se passe comment ? Sur plusieurs journées ? Une journée ? Expliquez-moi.
J'aime bien commencer par une journée d'initiation.
D'accord.
Donc, je vois les gens, je vois ce qu'ils veulent faire, donc je leur explique. J'ai aussi des gens qui veulent partir, par exemple, en voyage, en trekking, donc je leur explique le matériel qu'ils doivent prendre, comment s'en servir, comment réagir dans des situations compliquées. Vraiment, je les aide à préparer, en fait, leur voyage. Je commence vraiment doucement et en fonction de ça, je vois comment ça évolue. Il y en a parfois, il y a des gens, ça se limite au réchaud, ils sont déjà dépassés. Hein.
Donc, on a
un peu toutes sortes comme personnes. Donc je vois un petit peu, je teste les gens. Et puis, en fonction, on va de plus en plus loin. Et tout ça, je fais ça dans la région de Marche en Famène. Je suppose qu'Aïdi vous a expliqué.
Bien sûr.
Dans le site du Fonds des Vaux, j'en profite également pour expliquer un peu la faune, la flore et l'historique du Fonds des Vaux.
Avec un but, hein, c'est de tenir quoi, 24 heures, 48 heures tout seul, c'est
ça ? Oui, le but, c'est que quand je fais des stages, c'est que les gens puissent au minimum se débrouiller 24 heures dans la nature s'ils avaient un problème. C'est-à-dire qu'ils partent en randonnée, ils se perdent ou ils se blessent. Ils doivent pouvoir se débrouiller minimum 24 heures. Dans la nature, ça tourne autour de trois grands axes. Il y a le feu, les abris et la nourriture.
D'accord.
Et ça, c'est un peu en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, si on est tout mouillé, on va essayer de faire un feu ou bien un abri. Si on a faim, bon, essayer de trouver de la nourriture. Tout dépend en fait du contexte dans lequel on se trouve à ce moment-là.
Et il y a une règle, la règle des 5 C. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, la règle des 5 C?
Oui, les 5 C. En fait, c'est 5 objets qui commencent par la lettre C qu'il faudrait absolument toujours avoir avec soi, quoi. Donc, bien sûr, ben, c'est la corde.
Ouais.
Il faut de la corde pour pouvoir faire soit des nœuds, des abris ou tout ça. Il faut un couteau pour pouvoir couper un peu du bois ou tout ça. Il faut également une couverture pour tout ce qui est se protéger du froid. Il faut de la chaleur, donc pouvoir avoir un briquet, des allumettes ou un fire steel pour allumer un feu. Et le dernier, c'est le contenant, qui est en fait un objet, comment, quelque chose pour mettre, contenir de l'eau, quoi, que ce soit une gourde, une boîte de conserve, une bouteille en plastique, n'importe quoi.
Mais en tout cas,
c'est le minimum qu'il faut avoir.
C'est le minimum, et le reste, ben, on l'apprend avec vous, et vous l'avez dit, c'est toujours un accompagnement personnalisé avec des petits trucs et astuces adaptées à chacun, Marianne. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça. Hein.
Oui, alors Alain, vous avez parlé tout à l'heure du fonds des Vaux, et Heidi aussi, on a parlé tout à l'heure, le fonds des Vaux, perle naturelle de la commune de Marche-en-Famenne. Vous êtes vous-même partenaire du géoparc Famenne-Ardennes. Vous faites aussi des balades au fond des Vaux? On peut aller vous trouver pour faire une balade là-bas?
Oui, oui, hein, y a des gens qui nous demandent pour... comme je fais partie, je suis membre actif de l'ASVL du Fonds des Vaux, où des gens nous demandent parfois pour faire une balade, que ce soit moi ou bien des autres de mes collègues. Mais moi, j'en fais... Tout ça, j'en parle toujours quand je suis même en survie ou que je fais du franchissement d'obstacles. J'en profite toujours pour mettre à l'honneur le Fonds des Vaux. On leur explique vraiment un peu l'historique, la faune, la flore et tout ce qu'on fait pour la protéger.
Oui, et les sites karstiques, hein, parce que c'est assez particulier.
Ah oui, il y a plein de grottes. Hein.
Oui, c'est ça.
Donc on en profite pour passer un peu dans les grottes et tout ça. Quoi.
Bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à ces quelques questions.
Merci.
Alain, on renvoie les auditeurs vers votre site espritaventure.be.
Oui, c'est gentil. Merci.
Merci Alain. Bon samedi après-midi. RTBF, la première.
Merci également.
L'agence tourisme, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin, les amis. Ça passe à une vitesse. C'est cet esprit d'aventure que c'est terminé cette émission. Merci à nos invités, hein, Sophie, Heidi, mais. Et avant de se dire au revoir, toujours une tradition dans cette émission, je vous demande de me donner envie, de donner surtout envie à celles et ceux qui nous écoutent, de découvrir Marche en Famenne, cette perle de la Famenne. Deux mots pour qualifier Marche, convaincre nos auditeurs, auditrices de la découvrir. Heidi?
Moi, j'ai envie de dire charmante et inspirante.
Charmante et inspirante. Et vous, Sophie?
Moi, j'avais envie de parler du patrimoine ancestral.
Patrimoine ancestral, voilà en tout cas des mots.
Très bien.
Pour découvrir Marche-en-Famenne, à découvrir aussi sur nos sites, grâce à l'application RTBF Actu. N'hésitez pas à consulter l'article sur rtbf.be. Une émission qui s'écoute aussi, qui se réécoute en podcast sur RTBF Ovio. On va remercier Marianne, bien entendu.
Avec plaisir.
Voilà, merci les équipes qui œuvrent derrière, on les embrasse aussi. Et puis vous, soyez fidèles au poste. Rendez-vous la semaine prochaine, dès 13h, pour un nouvel épisode de l'Agence Tourisme. On vous emmène jusqu'à 14h, l'heure à laquelle vous aurez droit aux infos. Kiosque aussi. Eh ben, on va terminer en musique avec David Noumouami. J'adore ce morceau. Voici Théma pour vous accompagner. Très bon samedi après-midi sur RTBF La Première. À la semaine prochaine.